Nous sommes heureux de vous accueillir dans le vallon à fleur d'eau, espace art et nature. L'entrée du parc, avec son escalier très ombragé, sous des noisetiers, laisse présager la découverte d'un endroit un peu secret et protégé des regards. Jouons tout de suite carte sur table. Ce jardin se mérite et demande quelques efforts. Mais rassurez-vous, vous pourrez à tout moment faire halte sur un banc, dans un hamac ou sur un transat. Car vous allez parcourir un ensemble de 5 hectares avec un dénivelé de 90 mètres environ entre le haut du vallon et le lit de la rivière. Cela comprend les deux coteaux qui enserrent le parcours du Musson, de la route du plan d'eau au chemin de Canquenaille. Pour votre promenade, les allées sont le fil conducteur entre différents tableaux, constitués ici de multiples petits jardins, différents par leur ambiance, leur végétation, leur lumière ou leur couleur. En bas de l'escalier, près du pavillon d'accueil, une silhouette de femme en métal, allongée sur le mur, vous interpelle. Défense de monter sur ces murets dans le parc, ils sont très vieux, mais surtout très instables. Dès les premiers mètres, le ton est donné. Tout au long de la visite, vous allez découvrir des sculptures au milieu de la végétation, sur un tapis de mousse, au milieu d'un massif ou au pied d'un arbre. Certaines sont en pierre, en métal, d'autres en mortier ou en verre. Nous décrirons beaucoup de ces créations, mais observez bien, certaines seront encore à dénicher. Ainsi, ce petit personnage, taillé dans un bloc calcaire, assise au creux des racines de l'épicéa, est très photographiée par les parents. Leurs enfants adoptent par mimétisme et instinctivement la même position que la sculpture. Alors la photo est géniale. Sur le coteau à votre droite, une silhouette argentée, l'éloi. Un personnage imposant domine le peuple et écrase les lois, mais la piqûre des triangles en métal le rappelle à la réalité. À cet endroit, vous avez deux possibilités. Emprunter le petit escalier à votre droite et parcourir un sentier en hauteur, ou continuer sur l'allée basse. Les deux allées se rejoignent à leurs extrémités et forment ainsi une boucle. Vous choisissez de continuer sur l'allée basse? Les premiers pas se font alors en longeant un coteau de conifères à l'ombre sèche, abritant une collection de chairs au feuillage coloré, ainsi que des ifs, des thuyas, des cèdres, des épicéas et des cyprès. Le chêne est également surnommé le désespoir des peintres, car la légèreté de ses fleurs les rend difficiles à reproduire. À votre gauche, quelques marches permettent d'accéder au parc des petits fruits, mais patientez, nous verrons plus tard. Au bord de l'allée, vous découvrez des fougères, des agapanthes bleues, des pivoines roses, des lys des bois jaunes, érythronium au chapeau en toit de pagode, des encolis noirs et surtout une géante à la floraison blanche, le crambe cordifolia ou chou nuage. Les minuscules bouquets légers de cette variété de choux justifient son autre nom de gypsophile en arbre, mais l'odeur de son feuillage rendrait difficile son utilisation dans les bouquets. Sur le muret, une passiflore blanche parfumée, Constance Elliott, dont les fruits rares sont comestibles. Envisageons maintenant que vous ayez choisi le petit escalier en début de parcours. Si les marches vous semblent difficiles ou si vous ne voulez pas faire marche arrière, restez sur l'allée basse. Vous pouvez alors suivre du regard ce sentier en hauteur, en contre-plongée. Les arbres sont prioritaires et leurs racines sont traîtres à franchir. Le relief est impressionnant et inspire le plus profond respect. Nous traversons les Euchères, mais attardez-vous sur la grosse pierre en bord de sentier. Ce banc improvisé présente à sa surface des fossiles, quelques coquilles de bivalves, dont les stries sont toujours visibles malgré les années. Nous passons sous la belle voûte d'un énorme if en bouquet, dont l'écorce prend une teinte rouge sang sous la pluie. Ces baies rouges collantes sont très toxiques, et les enfants de la campagne faisaient de la colle il y a des années avec ces petits fruits. Quelques mètres plus loin se dressent un ginkgo biloba, un araucaria et un staphylea pinnata. Le ginkgo tout d'abord. Notre ginkgo est un pied femelle. Il porte des fruits semblables à des mirabelles qui, en automne, dégagent à leur chute une odeur nauséabonde. C'est la raison pour laquelle les ginkgos plantés dans les espaces publics sont toujours des pieds mâles, sans fruits. Cette essence est le seul végétal ayant survécu aux explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Considéré comme fossile, il est dit panchronique, car sans changement de structure depuis les temps préhistoriques. Il peut vivre 4000 ans et est aussi appelé l'arbre aux 40 écus. À l'automne, il se métamorphose en une flamme jaune dorée, le spectacle est éblouissant. Notez que deux autres variétés de végétaux dans le parc sont aussi dites panchroniques, la prêle, échizétomie mâle, et le Gunnera manicata, ou rhubarbe géant. Passons au staphylea. Tout en haut du coteau, à votre droite, se dresse le staphylea pinnata ou faux pistachier. Au Moyen-Âge, tous les couvents avaient cet arbre dans le jardin des cloîtres, car les gousses molles succédant aux grappes de fleurs blanches abritent de petites graines noires très dures qui permettaient aux moines de faire des chapelets, d'où son autre appellation de patrenotier venant de paternoster. La difficulté devait être de percer ces petits grains. En parlant de chapelets ou de colliers, vous découvrirez plus loin dans votre parcours une graminée originale, les larmes de Job. Ces graines sont comestibles comme le maïs, mais en séchant, elles permettent surtout de créer des bijoux ou de broder directement des motifs sur les vêtements. La différence avec les graines du staphylea est que les larmes de Job sont naturellement percées aux deux extrémités et donc le travail est plus facile. Enfin, l'araucaria. L'araucaria n'est pas une espèce locale, mais il s'adapte assez bien à nos climats. Son tronc recouvert d'écailles excessivement acérées lui vaut le surnom de désespoir des singes. C'est le seul arbre sur lequel ces animaux ne peuvent grimper. Au Jurassique, de grandes forêts de cette essence occupaient une partie de ce qui est actuellement l'Europe continentale. redescendait maintenant quelques marches en saluant le pantin sur son tas de bois. Fabriqué avec des matériaux de récupération, il lit tranquillement d'où le nom dont nous l'avons affublé, Jean-Claude. Pour Jean-Claude qui lit. Au pied du figuier, une sculpture en pierre avec ses torsades minérales accompagne le tronc tortueux de l'arbre. Lorsque le sculpteur l'a réalisé, il n'avait pas imaginé un instant que cet objet allait si bien trouver sa place auprès de ce vieux voisin végétal. Glissez-vous sous les branches par un passage sombre et discret, longeant un vieil appentis, et poursuivez. Vous arrivez sous un sapin à fût multiple, à votre gauche, sur lequel est accrochée une grande flamme de métal, presque invisible malgré sa taille. Sur la droite, faites pivoter une nouvelle création. Dans son cadre métallique rouge, la colonne de pierre montre de très fins entrelacs, où l'on reconnaît, entre autres dessins, la silhouette d'un moine encapuchonné. Faites tourner avec précaution cette fragile sculpture pour découvrir les motifs de ses quatre faces. Revenez sur vos pas, prenez l'allée de gravier et contournez le sitis aux grappes jaunes parfumées et les œchères noires. Une source pérenne sort sous un buisson de yucca, dévale un petit viaduc en métal moussu et se déverse dans un bassin. En cascatelle, l'eau rejoint la rivière sur un toboggan de mousse. Dans ce tableau, le saule pleureur, les prêles, le son de l'eau et le chant des grenouilles créent une atmosphère fraîche, animée et translucide. Un personnage aérien, le jumper, prend son élan sur un banc de pierre pour atteindre la margelle et rejoindre le penseur en méditation au bord de l'eau. La vocation de cette sculpture, le jumper, outre son caractère artistique, est d'empêcher le visiteur de descendre le long de la cascade, car des plantes fragiles en habillent le parcours. La saurure penchée, ou queue de lézard, avec ses épis blancs inclinés, et l'outwinia cordata, au parfum d'agrumes et aux feuilles en forme de cœur. Dans l'eau du bassin, l'aponogeton blanc cireux embaume la vanille, d'où son surnom de vanille d'eau, et les feuilles des iris peinent à se distinguer de celles d'une autre plante aquatique, le sparganium ou rubanier d'eau. Cette plante épuratrice produit des fruits à l'apparence de boules épineuses vertes, dont la forme évoque la représentation du virus du cancer. Des salamandres dodues, jaunes et noires, sont souvent observées à cet endroit, car elles viennent donner naissance à leurs petits dans le bassin et vivent volontiers dans les tapis humides des mousses. La salamandre est un animal mythique, choisi pour emblème par François Ier. La légende prétendait qu'elle vivait dans le feu, qu'elle entretenait le bon feu et éteignait le mauvais, mais la réalité est plus prosaïque. En présence des flammes, cet animal sécrète un mucus isolant qui lui permet de supporter, pour un court laps de temps, une température extrême. Il était donc cruel et inutile pour les enfants du Moyen-Âge de jeter les salamandres dans le feu pour vérifier le dicton. Pour en revenir à notre bassin, les amoureux de graphisme apprécieront l'opposition entre les rameaux souples du saule pleureur et les tiges rigides et verticales des prêles. Ces deux végétaux offrent par ailleurs la même translucidité sous un rayon de soleil. Nous faisons toujours observer aux enfants la succession de petits bâtonnets que sont les tiges de prêles, bâtonnets qui s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Le jeu consiste alors à retrouver la place de chacun lorsqu'une tige est disséquée. Sur les tiges des prêles, nous avons souvent remarqué des mues de libellules abandonnées et vides. La structure rugueuse de ce végétal riche en silice, au point de servir de dentifrice aux randonneurs tête en l'air, offre à cet odonate l'opportunité de s'accrocher fermement sur ce support pendant cet acte merveilleux et intime qu'est la mue. En sortant de l'espace un peu sombre de cette clairière, nous frôlons une grande réalisation en métal, gardienne de la source et porte d'entrée dans un nouvel espace. Elle exprime la légèreté des bulles d'air s'échappant du bouillonnement de l'eau, mais on peut également y voir une énorme fleur de pissenlit dont quelques akènes auraient été dispersés par le vent. Voici maintenant le jardin bleu ensoleillé, avec sa collection de menthe et son tapis de bergénia. À l'entrée de ce massif un peu fourre-tout, découvrez la saponaire, aux fleurs bleues gentianes. Ses racines moussent dans l'eau sous l'effet de la saponine qu'elle contient, élément de base des savons naturels. De grands buissons blancs vaporeux occupent l'espace central, des persicaires polymorphes, vivaces majestueuses et fidèles chaque année. Viennent ensuite des euphorbes au latex toxique, euphorbes carachias, euphorbes petits cyprès, amygdaloïdes, etc. Leur teinte vert pastis s'ajoute à l'immense palette des multiples tons de vert tout autour de nous. Voici alors des sédums rouges, des verts, de doux cirsomes pourpres à la fausse apparence de chardon, des bleuets, des iris nains multicolores, un arbre papillon, le buddleia, et des arbres caramel, cercidiphyllum ou katsura, dont les feuilles en fin d'été exhalent un parfum de crème brûlée. Selon les saisons, vous trouverez des dahlias, des alliums, des lys, des tulipes, des bourraches, des campanules, des agastaches, etc. Pas de grande composition, mais des variétés en quelques exemplaires seulement, à observer en suivant la corde en barrière. Il est à noter que beaucoup de ces plantes nous sont apportées par des visiteurs amoureux des jardins. Dans le monde des jardiniers, le partage des boutures est le maître mot. Nous contournons l'extrémité du parterre, Descendons quelques marches. Notre avancée est bloquée par un tableau rouge, noir et argent. Le cri révolutionnaire d'une tête coupée, mais à la voix encore puissante, à l'émotion palpable. Nous n'empruntons pas le grand escalier aux 40 marches, il est dangereux et réservé à l'entretien du parc. Alors, voici les menthes. Selon les années et les ravages des limaces, 28 variétés de menthes se côtoient. Menthe verte, noire, frisée ou blanche. Au citron, à l'orange, à l'anis, au basilic ou à la bergamote. Ananas, fraise, pomme verte ou pamplemousse. Marocaine pour le thé, chocolat dans un yaourt et d'autres encore au fil de l'allée. Sur votre droite, voici un tout petit escalier qui descend dans le coteau. Il n'est pas facile et si vous l'empruntez, vous raterez une partie de la visite, alors oubliez-le. Un peu plus loin sur le parcours, vous verrez cet escalier d'en bas. Sur l'ensemble de la promenade, vous rencontrerez d'autres sentiers cul-de-sac, car il est difficile de quadriller un si grand espace sans rien oublier. Attention à votre tête, évitez le vieux photophore et sa réserve de graines. Lorsque vous retrouvez le bassin, vos pas font sauter la colonie des grenouilles qui se chauffent au soleil. Après votre passage, elles reprendront leur séance de bronzage. Nous repassons près de la sculpture en bulle et reprenons sur quelques mètres l'allée par laquelle nous sommes arrivés. Au passage, voici l'un des plus gros arbres du parc, un frêne blanc à la splendide charpente, royaume des écureuils. Sous ce géant, un grand banc au bord du tapis de lierre vous donne un aperçu de la profondeur du vallon. Attention au vertige. Revenons sur nos pas et reprenons le sentier. Nous longeons maintenant le verger, entre les framboises, les cassis, les groseilles, les mûres sans épines et la vigne. Remarquez derrière les framboisiers un tertre, sur lequel est posée une sculpture en pierre dont le décryptage est intéressant. Approchez-vous. En revenant sous le cerisier, baissez-vous pour éviter la lampe tempête. Sa mèche a été remplacée par un bouchon de carafe à vin. Observez les arbres à travers ce bouchon, tout est inversé. L'herbe a la tête en bas et le peuplier a les racines en l'air. Au bord de l'allée en gravier que vous descendez maintenant, voici les gogies et le chèvrefeuille à baie de miel ou baie de mai. Ces fruits bleus carrés au goût de myrtille et son nom imprononçable de Lonicera kamtchatica. En ce qui concerne le goji, tous connaissent les vertus antioxydantes des baies séchées, mais soyez prudents, à forte dose, ces baies sont anticoagulantes. Une petite passerelle métallique franchit ensuite l'escalier d'eau. Le terrain sur ce surplomb était dangereux, car constamment gorgé d'eau et spongieux sur une grande profondeur, comme une tourbière. Nous l'avons drainé en creusant un écoulement en forme de marche, végétalisé avec de la menthe aquatique, des cyrtes, des iris et un peu plus haut des hémérocales aux fleurs éphémères. La minuscule île dans cet escalier supporte un poisson en pierre et deux gros bivalves fossilisés. Nous devons maintenir ces coquilles en milieu humide pour éviter leur désintégration complète. Le long du sentier de gravier, à votre droite, un massif d'acanthe. La feuille d'acanthe constitue depuis l'Antiquité le principal ornement des têtes de chapiteaux, des églises et des temples. Vient ensuite un buisson de marjolaine ou origan des jardins. Cueillez un brin et sentez... Une nuée de papillons s'envole à votre passage. En face, un jeune mais magnifique persicaire Red Dragon. Cette vivace au feuillage et aux tiges pourpres arbore sur chacune de ses feuilles un V inversé argenté. Vous découvrez à votre gauche le lotus, volumineuse sculpture qui a les pieds dans l'eau à la mauvaise saison. Durant tout l'hiver et souvent au printemps, le creux sous le peuplier d'Italie est une grande mare et son écoulement sur la descente de pierre rejoint la rivière à travers un tapis d'ardoise. Dans cette mare, une source naturelle saisonnière se joint au trop-plein du bassin des Carpes et à l'écoulement de l'escalier d'eau. Sur les cailloux, vous apercevez de l'or? Non, non, amis orpailleurs, ne sortez pas vos bâtés. Nous nous sommes amusés à éparpiller sur les pierres des petits carreaux de mosaïques de verre doré, des tesselles, qui lancent des éclats de lumière sous le soleil. Tous les enfants les remarquent, mais curieusement, ne les ramassent pas. La descente se poursuit entre les hélébores rouges et blanches et de vieilles ardoises présentant des extraits de poésie, touches littéraires rappelant notre amour des livres et des auteurs. Au printemps, le talus se couvre de petits narcisses tête-à-tête, jaunes et parfumés. Au-dessus de votre tête, un pivert a creusé un trou dans le frêne et les abeilles qui le squattent, alternativement hélas avec des frelons asiatiques, se régalent du pollen de ses fleurs précoces. Au pied de ce frêne, l'homme peul, avec son visage sombre et ses bandes dorées, apporte une note d'exotisme à cet environnement. Cette pierre a été sculptée et peinte sur une seule face, l'arrière ayant été conservée brute. Quelques mètres plus haut, une mire en métal, juchée sur la pente, surveille les alentours. Nouveau tableau. Avec à droite la vue en contre-plongée sur la cascatelle et à gauche le petit théâtre des strates de pierre et le marais des mousses. Ces strates ont été mises à jour en déracinant des arbres morts. À cet endroit, les enfants et les adultes peuvent observer la structure du coteau sous les couches de terre et d'herbe, et imaginez le parcours des racines des arbres qui sortent puis rentrent dans les fissures de la roche. Une toute petite sculpture nous observe, une nymphe s'étirant gracieusement sous la protection du frêne têtard. Au bout de la passerelle, le tronc d'un saule tortueux, mort de vieillesse, supporte deux écureuils en verre, silencieux et immobiles. Leurs cousins, bien vivants ceux-là, emplissent de noix les strates sous cet arbre et les oublient aussitôt. Au sol, un tapis de petites consoudes a colonisé le terrain. Cette vivace sauvage aux épis bleu-violets, également appelée bugle rampante, était le remède préféré des médecins de la Renaissance. Elle était utilisée comme anti-inflammatoire, sur les plaies, contre les rhumatismes, enfin bref, pour tout. Pénétrons maintenant dans une scène un peu mystérieuse, le coteau des fougères. Nous y retrouvons ce que nous appelons l'ambiance brocéliande, un peu gothique. Sur votre droite, vous pouvez voir, comme promis, le petit sentier qui fait la liaison entre le jardin bleu et le bas du coteau. Aucune fleur ne pousse sous cette voûte de vieux arbres, haute et peu épaisse, dans un sol froid très drainé et calcaire, où tous les essais de plantation ont échoué. Une nouvelle tentative, inspirée par l'observation de la flore locale, a enfin réussi. Des fougères scolopendres, prélevées dans le roncier du bief, se joignent à des cyclamènes koum. La légèreté de ces fleurs contraste avec l'énormité du bulbe qui leur donne naissance. Les bulbes des cyclamènes, en forme de coupe, développent de fines pousses comme des ressorts protégeant en leur centre un bouton floral. Fin août et début septembre, le coteau se couvre donc de délicats papillons et devient rouge, rose ou blanc. À leur côté, plusieurs variétés de fougères déplient leurs frondes beaucoup plus fines et découpées que celles des scolopendres. La fougère scolopendre ou fougère langue de cerf a des feuilles longues et larges, aux bords ondulés et plissés comme la langue de cet animal. Le revers des feuilles est couvert de spores brunes, en lignes parallèles courtes comme les pattes du scolopendre, d'où son appellation première. Dans les arbres en bordure de l'allée, une touche de rouge. L'ancien petit viaduc qui recevait l'eau de la source s'élance maintenant verticalement pour essayer de canaliser la lumière. Ajoutons à tout ceci les pieds des fraises des bois, issues d'un champ voisin, qui lancent leurs stolons dans toutes les directions, y compris dans l'allée. Au bout de ce massif, oublions le grand escalier et franchissons les pierres plates entre le gros frêne et le muret. Mais avant de franchir prudemment ce seuil, nez en l'air! Une petite chouette en zinc, vigie silencieuse, vous frôle les cheveux. Nous avons alors deux circuits avec deux perspectives différentes. Commençons par l'allée de droite avec la voûte arrondie et basse des noisetiers. Au printemps, cette zone à l'ombre se couvre de fleurs aux épis blancs et aux feuilles lancéolées extrêmement fines. Ce sont des ornithogales des Pyrénées ou asperges des bois. Lorsque la jeune pousse apparaît, la tige de boutons floraux encore fermée se consomme comme une asperge. Bon appétit aux aventuriers! Nous avançons et nous découvrons maintenant l'escargot géant, avec sa coquille rouge, sur son arbre couché par les intempéries. Près de lui, un vieil aulne à la circonférence respectable vous invite à saluer la gitane, sculpture bleue qui vibre sous le vent, impatiente de s'envoler pour un fandango endiablé. Ici, nous délaissons le pont et faisons demi-tour pour longer la rivière dans la deuxième perspective. Une allée rectiligne entre les peupliers du marais, si haut que l'on s'en sent très très petit. Sur votre gauche, tremblez en levant la tête vers le serpent doré et sa langue bifide. Tout cet espace constitué des deux allées, et que nous avons pompeusement surnommé la Via Romana, se couvre à l'automne d'un tapis d'énormes champignons blancs, très bas et évasés, qui ressemblent à des pleurotes. Leurs bouquets ont l'air de suivre les racines des peupliers. Mais sans fin connaisseur pour les identifier, nous nous contentons de les admirer, sans prendre le risque de les consommer. Le vitrail qui apparaît ensuite rappelle un œuf d'une des poules d'eau à la crête rouge que l'on peut observer sur les bords de la rivière. La taille de cet œuf laisse penser à une poule XXL. Dans ce vallon, tout semble de taille OGM, entre les œufs, les serpents, les escargots et les champignons. Sur votre gauche, approchez votre œil de la mire de la fleur en 3D. Ajustez votre regard pour aligner tous les panneaux métalliques et découvrez une marguerite. À cet endroit, sur le bord du ruisseau, vous pouvez faire une pause sur la double chaise très originale qui permet de converser en vis-à-vis. Nous arrivons au pont blanc. Ce petit pont arqué enjambe l'écoulement de la Cascatelle qui se présente ici comme un minuscule marais de mousse. Dans ce marais, au milieu des mousses, poussent également des plantes sentinelles, indicatrices de la pureté de l'eau. C'est ici également que pondent les grandes libellules jaunes et noires, les cordulgasters. Si vous voyez danser cet animal, debout sur sa queue en piquant l'eau, c'est qu'il pond. À chaque saut, la libellule plante un œuf dans le sol et le phénomène peut durer jusqu'à 30 minutes. Le matin, elle fait vibrer ses ailes pour les sécher afin de pouvoir s'envoler comme un minuscule hélicoptère. Sur le fond de ce biotope humide, vous apercevez des crevettes d'eau douce, des gamars. Elles s'agitent dans le sable qui est issu de l'érosion des strates calcaires par le ruissellement de l'eau de la cascade. Et au milieu des herbes, surprise ! Une invasion de grenouilles, des petites, de plus grandes, et un couple de grenouilles géantes, toutes prêtes à sauter, leurs yeux rouges écarquillés. Mais patouche, ces petits batraciens sont en verre, et l'ensemble est fragile. Un siège rouge à trois faces fait écho, par sa couleur, à une sculpture en mortier de chaux posée sur le talus recouvert de minuscules artichauts des murailles. Cette création résolument abstraite permet au spectateur de laisser libre cours à son imaginaire. Sur l'îlot entre les bras de la rivière, des nénuphars en verre éclairent un massif de petites prêles sauvages ébouriffées. Comme leurs grandes cousines, elles aussi sont panchroniques. Changeons de jardin et franchissons prudemment la passerelle, un peu glissante par temps de pluie, constituée de vieilles portes en bois juxtaposées. De l'autre côté de la passerelle, un tapis d'ardoise concassé cerne les vieux arbres et canalise le flux d'eau qui, au printemps, descend du coteau et de la mare au lotus. L'aspect brillant des ardoises mouillées et l'ambiance sombre de ce lieu nous font penser à une mangrove où l'eau saumâtre entoure les racines des palétuviers. Mais heureusement, une mangrove sans alligator. Nous arrivons maintenant dans une clairière, puis de lumière sur les rosiers multicolores. Ces rosiers sont accompagnés d'une centaine de pieds de roses trémières, aux pompons doubles rouges, roses ou blancs. Ce massif longe le ruisseau et ses bouquets d'iris jaunes, ses litrums salicaires roses et son tapis de menthe aquatique. Une chaise longue en métal permet d'observer les grenouilles, les martins pêcheurs et les agrillons bleus électriques peu farouches. Ces derniers, proches des libellules, font partie de la famille des demoiselles. Restez immobiles, ils se posent sur votre bras. Quant au martin-pêcheur, cet oiseau vif-argent trouve ici un territoire qui lui convient parfaitement. L'eau y est assez claire, non stagnante et peu profonde pour qu'il puisse distinguer ses proies. Il partage avec la loutre le même restaurant, mais si lui mange les petits poissons, il laisse à la loutre les gros gabarits. La femelle du martin-pêcheur pond ses œufs dans un nid creusé dans la berge des ruisseaux. La galerie d'accès est pentue, car les oisillons commencent leur premier vol en se laissant glisser dans l'eau sur cette pente, puis s'envolent jusqu'à l'arbre le plus proche. Avant de nous diriger vers le pont et de traverser la rivière, prenons le temps d'observer un peuplier mort qui présente des trous impressionnants creusés par les pics. L'un de ces orifices abrite chaque printemps une bruyante famille de piques et pêches. Si vous vous approchez du nid, les parents des oisillons vous interpelleront de leurs cris aigus du haut des arbres environnants, vous sommant de déguerpir. Sur le tronc, remarquez des champignons en coupelle, des amas d'ouviers. Ils peuvent atteindre un diamètre de 40 cm et un poids de 2 kg. La face plate de ce champignon se tanne au marteau de bois, comme le cuir. La face incurvée, coupée en fines lamelles, possède des propriétés cicatrisantes et hémostatiques. Quant aux fibres intérieures, si elles sont enflammées, elles constituent une braise exceptionnellement durable. Les paléontologues pensent que l'amas d'ouvier permettait aux hommes de la préhistoire de transporter et de conserver les braises de leur feu dans l'enveloppe extérieure très dure de ce champignon. Vous retrouvez cette histoire dans la saga de Ginoël, Les Enfants de la Terre. Quelques morceaux d'amas d'ouvier ont également été découverts dans le sac de la momie Ötzi, au Tyrol, preuve que l'âge présumé d'Ötzi. La moelle du champignon, l'amadou, a également très longtemps constitué la mèche des briquets avant l'apparition de celles en coton. Le nom d'amadou, d'origine provençale, signifie « amoureux » et fait allusion à la capacité de ce champignon à prendre feu comme les amants. Lorsque les premiers amadouviers apparaissent sur le tronc d'un arbre, ce dernier est mort déjà depuis longtemps, les spores l'ayant complètement rongé de l'intérieur. Dans le terrain, vous pouvez entendre le pie vert ou pic vert, le pic épêche, le pic noir et le grand pic. Le pie vert se déplace sur le sol pour trouver des fourmis qui représentent 90% de son alimentation. Et son rire résonne sous les peupliers puisqu'il y passe une grande partie de son temps. Le pic épêche tambourine sur les troncs pour extraire les larves d'insectes. Son martèlement est très rapide et moyennement sonore, contrairement à ceux du pic noir ou du grand pic, qui peuvent s'entendre à plusieurs kilomètres, de vrais forgerons sur leurs enclumes. À cet endroit du jardin retentit également le cri rauque des jets des chênes. Ils perdent parfois sur le sol des petites plumes bleues électriques. Regardez bien à vos pieds. Le jet est surnommé la sentinelle de la forêt, car il alerte ses habitants au moindre danger. Il peut imiter le cri d'autres oiseaux comme la buse, ou même le miaulement d'un chat ou le jappement d'un chiot. Un jour, croyant secourir un chat en détresse en haut d'un arbre, nous n'avons affronté que l'envol effarouché de cet oiseau moqueur. Avançons. Sur le pont métallique, arrêtez-vous et observez la luminosité de l'eau à cet endroit. Elle nous rappelle la lumière du marais Poitevin. Il ne manque que les lentilles d'eau et les vaches maraîchines. Prenez à droite, mais attention à votre tête. Les branches sont basses sous l'énorme noyer dont les fruits sont le cauchemar des casse-noix. Les coques sont rectangulaires, énormes et particulièrement dures. Même les écureuils refusent de s'y casser les dents. À cet endroit, les promeneurs fatigués pourront faire une petite sieste dans le hamac suspendu sous cet arbre. Suivez le bord du ruisseau. L'ombre est fraîche et l'odeur balsamique accompagne le clapotis de l'eau sur les pierres. Chaque enrochement que traverse le courant a sa propre musique, sa résonance, son écho. Ces différences de son s'expliquent par la hauteur de la chute d'eau, la grosseur des pierres et leur nombre. Nous sommes tellement habitués au son du parc que nous pouvons presque nous situer sur le parcours de la rivière en écoutant la musique des passages de cailloux. Enfin presque, hein, ne soyons pas trop prétentieux. Quelques mètres plus loin, sur votre gauche, découvrez la rosace. D'abord totalement transparente de face, elle prend progressivement tout son volume au fur et à mesure de votre avancée. Cet effet est dû aux matériaux utilisés pour sa fabrication. Elle a été réalisée en soudant des plaques métalliques très fines. Lorsque l'on aborde la sculpture par la tranche de ces plaques, on ne voit que des petites lignes de champ. En bougeant d'un côté ou de l'autre, le regard découvre petit à petit la surface des éléments soudés et l'effet de perspective fait le reste. À travers la prairie, nous longeons la rivière. Des bancs permettent de s'attarder sous les noyers. En passant sous cette voûte, profitez du conseil d'un berger. Quelques feuilles de noyer froissées, placées le soir dans vos chaussures de randonnée, les désodorisent parfaitement pendant la nuit. Pensez malgré tout à les enlever le lendemain avant de reprendre votre périple. L'herbe de la rive est souvent striée ici par les glissades de la loutre et de sa famille. Voici l'histoire de notre loutre. Un jour où nous nous trouvions dans le bois avec nos débroussailleuses, une forte odeur de poisson nous avait surpris. Sous les tiges aux épines acérées, plusieurs trouées au ras du sol indiquaient manifestement des passages d'animaux. Alors nous avions laissé un îlot sauvage en bordure du parc. Plusieurs mois plus tard, nous posions un portail près de la bergerie et nous vîmes à une dizaine de mètres un magnifique animal, marron et beige, au corps allongé, à la marche sinueuse et lente, qui remontait de la rivière et se dirigeait vers le bois. Il s'agissait d'une loutre. Le roncier habité était donc une catiche, les traces sur les bords de la rivière constituaient une plage de ressuie, et les déjections noires étaient des épreintes. Depuis, nous observons cet ami toujours accompagné d'un ou deux loutrons. Ni les visiteurs du parc, ni les ragondins ou les chevreuils ne la perturbent. Chaque matin, elle part en chasse dans la rivière et revient en soirée pour dormir dans son roncier. Nous pouvons observer son trajet entre le ruisseau et le bois. Dès que l'herbe de la prairie est un peu haute, une large trace centrale et deux sillons parallèles, moins prononcés pour les loutrons, indiquent leur passage. En principe, la loutre ne mange que la tête des poissons qu'elle capture. Mais un jour de novembre, nous avons découvert sur la rive, près de la roue à eau, une carpe énorme, environ 4 kilos pour 80 cm de long. À moitié dévorée, visiblement été ramenée du plan d'eau sous le pont de la dalle et dévorée durant la nuit au tôt le matin puisque les entrailles étaient encore fraîches. Nous avons photographié l'animal et l'avons laissé là pour voir quel prédateur allait revenir finir son repas. Le lendemain matin, plus rien, aucun reste, pas même une écaille et nulle trace sur le sol recouvert de feuilles mortes. Seul un gros carnivore aurait pu pêcher cet énorme poisson, le ramener, probablement du plan d'eau, en dévorer la moitié et transporter le reste pour terminer son repas. Nous avons supposé que notre ami la loutre avait fait un festin de renne. tout au bord de l'eau, sur la rive, le poisson qui bulle rouge vous salue. Nous arrivons maintenant à la partie la plus rectiligne du cours du ruisseau. Sur ce parcours, l'eau est plus profonde et forme des grands trous où nous apercevons de petits bancs de gardons et de chevesnes, mais malheureusement pas de truites, l'eau est trop chaude. L'explication de cette température est simple. Le plan d'eau tout proche n'est que l'élargissement du cours du Musson, chantier réalisé par l'ancêtre du propriétaire actuel du château de Cherveux. La partie de la rivière circulant sur notre parc n'est donc que la reprise de son chemin à sa sortie du plan d'eau. Or, cette reprise est réalisée par une aspiration de surface, là où la température est la plus élevée. Si la prise d'eau avait été faite au fond du bassin, l'eau aurait perdu quelques degrés et la frayère des truites aurait subsisté. Le ruisseau de Saint-Christophe, qui rejoint le Musson, quelques mètres après le pont, abrite des truites, car il est alimenté par une source en sous-sol et il est donc plus froid. Vous pénétrez maintenant dans la prairie rouge des coquelicots. Cet océan de légers pétales écarlates ondule sous le vent, et la marche à travers ce tapis mouvant constitue un moment d'une intensité particulière. Au pied du deuxième pont métallique du parc, un tapis de menthe et d'iris sert de dortoir à un couple de colverts. Le mâle, très coloré, et la femelle, beaucoup plus discrète, donnent naissance chaque année à plusieurs couvées de petits canetons qui glissent le long des berges pour notre plus grand bonheur. Dans le virage du ruisseau, un vieux frêne supporte un tableau métallique en vert et bleu, dont la forme allongée s'oppose au large tronc de l'arbre. La base totalement creuse de ce dernier permet de voir l'eau s'écoulant derrière lui. Maintenant, soyez très prudent. En longeant la berge, ne vous approchez pas trop du pied des arbres. La bordure en herbe cache de grands trous entre les racines. Le pied peut facilement s'y tordre. Vous remarquerez de grosses excroissances à la base des troncs. Ce sont des loupes, très recherchées par les ébénistes pour faire de la marqueterie. L'automne, à cet endroit, habille le sol de bouquets de souchettes. Ces champignons comestibles parfumés régalent des gourmands d'omelette. En longeant le ruisseau, approchez-vous du pont de la Truite et faites halte au bord de l'eau, sur la terrasse abritée par un cerisier auquel s'accroche une vigne vierge. Regardez bien la clôture bordant cet espace. Elle a été fabriquée en tressant les branches tombées çà et là dans les terrains. C'est une manière originale et efficace de recycler tout ce bois perdu sans polluer par un brûlage. Vous avez pu remarquer des clôtures identiques à l'entrée du parc. Les bois les plus dégradés sont stockés en tas discrets pour constituer de simples hôtels à insectes. Puis demi-tour devant la monumentale fleur en métal perforé, colorée, sur le mur de l'ancienne bergerie. Selon l'orientation du soleil, le métal projette sur les pierres une ombre de dentelle. Vous pourrez observer dans la prairie et en bordure de bois à cet endroit des ormeaux champêtres. Ces arbres, dont les plus grands sujets ont été décimés par la graphiose, repoussent maintenant en petits arbustes buissonnants. Ils sont reconnaissables à leur écorce ligneuse, épaisse et irrégulière à l'apparence de liège. Les fleurs, jaunes à macule rouge, poussent en bouquet directement sur le tronc à l'aisselle des branches. Chaque tache rouge dissimule une graine que le vent emporte comme les ailes des érables. Cette fructification ressemble un peu à celle de la monnaie du pape. Approchez-vous du cèdre sur lequel est accrochée une grande sculpture argentée, Galaxie. Dans le parc, aucune création n'a de titre ni de légende. Chacun est libre de son interprétation. Pour preuve, plusieurs personnes ont vu dans ce tableau une énorme fourmi aux yeux globuleux, à la place des planètes d'origine. Nous suivrons la lisière du bois, assortiment de cèdres, d'aubépines et de merisiers. Cette dernière essence possède une écorce remarquable, en larges bandes horizontales argentées, dont l'aspect évoque un tissu soyeux. Au printemps, les petits fruits se mangent noirs, mais ne comptez pas sur le peu de chair qu'ils contiennent pour vous rassasier. En passant, découvrez le buisson d'eucalyptus. Froissez une petite feuille et enivrez-vous de son parfum. Au printemps, les aubépines offrent le spectacle éphémère d'un nuage blanc au parfum intense. Elles servent de refuge à une troupe de merles, aux trilles reconnaissables entre toutes. Quelques mètres plus loin, nous contournons le vitrail des tournesols, pivotant selon le vent, et nous pénétrons enfin dans le bois. Voici la clairière des vitraux. La lumière joue dans les verres translucides ou opalescents des tableaux en vitrail Tiffany. Elle rebondit sur les boules de funambules qui semblent s'échapper d'une cheminée en tulle d'aluminium. Au sol, un tapis de géranium bourbon, variété dont est extraite l'huile essentielle de géranium. Adieu les moustiques! En plein été, la chaleur est intense dans cette clairière cernée par les cèdres et les eucalyptus, et tous ces parfums saturent l'air ambiant. Prenez le temps de vous en imprégner, c'est le paradis de l'appareil respiratoire. Enfoncez-vous sous les arbres vers la grande table et ses tabourets multicolores. Vous êtes prêt pour un affrontement aux échecs, aux dames ou aux morpions. Pour votre information, les tabourets sont des bouteilles de gaz, vidées et fixées sur une tige dans le sol, afin d'en assurer la stabilité. Chut, ne faites pas de bruit. La catiche de la loutre est tout près dans le gros roncier. Nous avançons toujours dans le paysage. Le bois est gardé à l'état naturel, juste entretenu pour maîtriser le développement des frênes et empêcher le retour des ronces. C'est le domaine des chevreuils et des lièvres, parfois d'un blaireau ou d'un faisan. Zigzaguez au hasard. Au détour d'une allée, une vieille cage à oiseaux nous attend. La porte est ouverte et des volatiles en vitrail s'accrochent au grillage. Pierre Perret serait heureux. Ils sont libres, les piafs. Le printemps fait fleurir dans ce sous-bois les jacinthes bleues, les coucous et les géraniums sauvages roses. Ces derniers sont aussi appelés géraniums herbe à Robert. Mais ne cherchez pas qui était Robert. C'est simplement la couleur rouge des tiges, ruber en latin, qui s'est transformée en Robert au fil du temps. Le bois occupe tout le sommet du vallon orienté au sud. Une multitude de sorties à travers les arbres s'offrent aux promeneurs, mais soyez attentifs et suivez les flèches. Empruntez le vieux bief. Ce passage de pierre très étroit est encaissé entre deux murets presque totalement effondrés et longe la partie haute du coteau en surplomb de la rivière. C'est le vestige d'un bief qui amenait l'eau au moulin de la Truite, à l'arrière du parc, en provenance d'une source qui a depuis longtemps disparu. Lors du nettoyage des terrains, nous avons eu beaucoup de difficultés à découvrir le but de cette sente. Passage d'hommes lors des dragonnades, trop visible. Passage d'animaux de bas, pas assez large. Ancien lit de la rivière, trop haut dans le coteau. C'est finalement lors d'une discussion avec un ancien propriétaire du moulin que nous avons deviné qu'il en assurait l'approvisionnement en eau. Des anciens se rappelaient alors un petit tunnel abritant une source. Mais il nous a été impossible de la localiser, tout est tari et inutilisé depuis trop longtemps. Le sentier redescend brusquement vers la rivière, avec une très jolie vue sous le pont de la Dalle, sur lequel circule la départementale 122. Derrière ce pont se trouve le plan d'eau de Cherveux-Saint-Christophe, sa plage et ses activités nautiques. La lumière sous ce pont est enchanteresse, surtout en fin de journée, quand les rayons du soleil créent un clair-obscur particulièrement apprécié des peintres amateurs. Nous prenons l'allée longeant le ruisseau. L'ombre des noyers et de quelques frênes y est encore assez épaisse. Une roue à eau tourne lorsque le niveau le permet. Un peuplier effondré barre le ruisseau. Sur son tronc, des papillons en vitrail, mais aussi des chenilles en ressort et en peau de verre. Toutes les phases d'évolution s'offrent ici à l'imagination des enfants, qui ont bien compris que les premiers sont issus des secondes. Au passage, nous découvrons une petite île sur laquelle la sculpture onde met un peu de rouge dans le paysage. Ses spirales vibrent sous le vent. Thank you. Dans cette allée, les enfants peuvent faire une collecte surprenante. La pluie décompose les fibres de certaines feuilles de peupliers qui se transforment alors en véritables dentelles. Enduites de résine et légèrement solidifiées, elles offrent de multiples possibilités. Sous-verres, marque-pages, médaillons, etc. Quelques pas encore et le grand oiseau multicolore nous salue, caché dans son arbre. Des kakémonos en verre descendent des branches des noyers et projettent leur teinte bleutée sur le sol. À cet endroit, tournez votre regard vers la droite, vers la rivière. Trois marches descendent vers une grosse pierre semi-immergée, bordée de joncs panachés. Sur ce petit promontoire, vous êtes au milieu de la rivière et l'ambiance marais Poitevin est encore là aussi très présente. Vous avez envie de faire une halte, un petit salon de jardin récupéré dans un grenier relooké vous attend. Allez, venez, retraversons le pont. Pipaillon, sa pipe et sa moustache bleue nous saluent. Là encore, comme pour beaucoup de créations, cet objet a été fabriqué avec des matériaux de récupération, une seconde vie qui n'en a pas rêvé. La pipe est un morceau de corps de chasse, les dents une lame de motofaucheuse. La tête et les moustaches sont des tiges de fer rouillé trouvées dans le sol. Nouveau tableau entre les peupliers dont les troncs blancs au soleil prennent à l'ombre une teinte grise. Dans les bidons métalliques en camaïeu de bleu, des cœurs de Marie roses et blancs animent le printemps de leurs muettes clochettes et sont accompagnés par des érigérons, petites pâquerettes dans les mêmes tonalités. De septembre à novembre, le sol est ici complètement recouvert par les feuilles mortes des peupliers. Nous marchons alors sur un épais tapis, craquant, crissant et crépitant. Sur votre droite, un grand bosquet de frênes cache la rivière, mais fait le bonheur des animaux, qui peuvent s'y réfugier masqués par les petits troncs. Ils peuvent aisément fuir en cas de danger. Sur notre chemin, un ensemble extraordinaire. Une prairie fleurie multicolore entoure une magnifique création. Sur un socle de gravier blanc, un cube rouge épuré, comme dans une boîte ou sous un couvercle, abrite un buisson de corail bronze en lévitation. Si vous regardez bien, vous verrez qu'il a été réalisé avec une énorme quantité de rivets de forge, soudés avec soin. Ce sont les petits frères des rivets de Monsieur Eiffel. Avec de la patience, de l'imagination et une bonne technique, tout semble facile, n'est-ce pas? Nous entrons maintenant dans l'espace regroupant les activités de jeu. Tout ici a été créé en redonnant une seconde vie aux arbres et aux branches malmenés par les coups de vent ou par l'âge. Un peuplier ou un frêne abattu donne naissance à un jeu d'anneaux, une marelle, un cercle de conte, etc. Recyclage éphémère, bien sûr, mais Mère Nature pourvoira, hélas, toujours, au renouvellement de ses aménagements. Quelques miroirs déformants amusent généralement petits et grands. Un grand frêne déraciné s'est transformé en arbre à écureuil où les enfants s'en donnent à cœur joie sur les branches. Pirouettes, sauts, rires et cris de frayeur. Du pavillon d'entrée du parc, nous savons toujours si un groupe est à l'espace de jeu. Hurlements de victoire aux anneaux. Gamme plus ou moins mélodieuse au xylophone. Sifflement de la roue phonique. Rappels à l'ordre de parents prudents. Nous n'avons pas la lumière, mais nous avons le son. Le cercle des contes est un régal pour les groupes de visiteurs. Voici son mode d'emploi. Il faut installer les spectateurs sur les rondins disposés en cercle, désigner un récitant qui se juchera sur le poteau central et ça y est, la scène est prête pour Hamlet, le lièvre et la tortue ou la Reine des Neiges. Deux xylophones métalliques au son à peu près juste vont vous encourager à retrouver la partition de Frère Jacques ou Au clair de la lune. Il faudra juste remettre les marteaux à leur place à la fin du concert. Avant de quitter cet espace, regardez de nouveau le peuplier couché sur la rivière. Nous vous l'avions présenté précédemment. À cette extrémité, ses racines supportent un grand cadre en zinc. Si vous faites asseoir vos amis en ligne sur le tronc, ce cadre vous permet de prendre votre photo comme un tableau. Le terrain suivant est occupé par deux énormes noyers. C'est un triangle bordé par une haie de chèvrefeuilles et de vignes sauvages où une structure métallique sert de support à des coloquintes et à des courges variées. Un joli espace labyrinthe pour se perdre en évitant de s'assommer sous les fruits. Parmi ces courges se trouve la courge Lufa ou courge éponge. En fin d'été, elle est épluchée et sa moelle lavée et séchée est utilisée comme un gant de crin ou une éponge de bain. Elle prend 20 fois son poids en se gorgeant d'eau et elle laisse la peau douce, douce. Le parcours remonte ensuite vers l'anneau minéral. Tableau bizarre. Toutes les pierres qui constituent cet anneau ont été récupérées à la brouette dans l'ensemble des terrains. Ce sont des vestiges de murets effondrés ou la remontée naturelle des blocs en surface. Un cercle de gravillons borde une terrasse occupée par des agaves bleues et des faisceaux très graphiques de tiges rouillées. Au centre, une nouvelle pièce en métal très oxydée. Couverte de pointes hérissées telles des écailles, la structure a un aspect féroce et brutal. Pour information, il existe une agave très épineuse qui porte le nom d'agave férox avec un X. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine plantation, afin de pouvoir juxtaposer la plante et la sculpture. Le rebord extérieur de la terrasse est constitué de briques réfractaires issues d'un vieux four à pain. Les bordures de l'allée gravillonnée sont plantées de mûriers sans épines. Les enfants et les adultes peuvent ainsi arpenter cette piste en grignotant ces petits fruits sans s'écorcher les doigts. Le grand alu extérieur est végétalisé avec des chèvrefeuilles pour le parfum, des passiflores pour les fleurs et des vignes vierges pour la couleur de leur feuillage en automne. Savez-vous ce que représente la fleur de la passiflore? La couronne d'épines du Christ. Les trois clous de la crucifixion, les cinq plaies du corps de Jésus, le fouet des soldats et le marteau qui servit à enfoncer les clous, d'où son nom de fleur de la Passion. Vous allez découvrir dans l'herbe de la grande prairie une toute petite plante sauvage, la linaire bâtarde. Elle fait partie des plantes invasives, mais s'élimine assez facilement si on le décide. Alors, un feuillage gris duveteux, de longues tiges couchées, des petites fleurs jaunes. La fleur ressemble à celle du mufflier, éventuellement à une petite orchidée sauvage. Mais moi, je vois un petit dragon, gueule ouverte, la langue pendante, des yeux violets. Appuyez simultanément sur ses deux joues, il ouvre la bouche et vous apercevez une petite graine dans sa gueule. Nous ne redirons jamais assez combien la nature recèle de merveilles pour qui sait s'y attarder. Une halte sur les bancs en bois sous les chênes, refuge des jécorelleurs. Dans ces chênes, on peut souvent observer des faucons pèlerins à l'affût, et le ciel est sillonné par des faucons cresserelles, plus petits mais terriblement rapides. La vitesse en plongée de ces oiseaux peut atteindre 390 km/h pour le pèlerin et 400 km/h pour le cresserel. Le nom de ce dernier est dû à son cri, évoquant les petites crécelles en bois que faisaient tourner les lépreux pour signaler leur approche. Ce bruit de crécelles pourrait également être appliqué au jet, dont le cri grinçant évoque distinctement le petit instrument. Le nom générique de faucon vient de faux, l'outil de fauchage, pour caractériser les ailes de ces oiseaux qui sont longues, fines et recourbées comme cet instrument. Quelques mètres et nous arrivons devant une haie de canards rouges dont la floraison succède aux tulipes printanières. Le bas de ce talus est occupé par un vitrail au plomb représentant une truite multicolore. Celle-ci n'est pas gênée par la température excessive de l'eau. La sculpture émerge d'un tapis de menthe aquatique et d'iris prélevés dans la rivière. Cette zone de la prairie est maintenue très humide par l'infiltration inévitable du bassin. Nous y avons placé des Gunnera manicata qui vont essayer d'y développer leurs énormes feuilles épineuses, véritables parasols préhistoriques. Contournons les canards et approchons du grand bassin aux poissons multicolores. Il est sécurisé par une barrière couverte de houblon fabriquée avec des palettes métalliques de récupération très oxydées. Outre sa fonction décorative, ce houblon fantaisie dissuade les enfants de tenter l'escalade de la rambarde avec ses tiges urticantes et très rugueuses au toucher. L'hiver, sans sa couverture végétale, la barrière constitue à elle seule une magnifique sculpture. Le bassin est alimenté par une petite source de fond et son trop-plein en cas de pluie intense file par un tuyau enterré jusqu'à la mare du Peuplier d'Italie. De très beaux nénuphars déploient au centre du bassin leurs grandes fleurs doubles, cuivre clair et rose. Ce Nymphaea Florida Sunset est produit par Latour Marliac, obtenteur dont le plus célèbre client n'était autre que Claude Monet. Les fleurs de Nymphaea s'ouvrent chaque matin, dès les premiers rayons de soleil sur ce plan d'eau, et se ferment en fin d'après-midi. Les bourgeons se succèdent sans interruption tout l'été et montent lentement sous les feuilles en plateau. Les carpes coy trapues, les choubounkines, les sarassas avec leurs queues en voile, les goujons mangeurs d'algues, tout ce petit peuple cohabite dans cet espace en eau. De grosses grenouilles vertes apparaissent dans les feuillages aquatiques et au printemps, des nappes noires frémissantes de têtards attirent les enfants. Il faut alors leur expliquer les étapes de la transformation de ces petites virgules en batraciens sauteurs et coasseurs. L'apparition de une, deux, trois puis quatre pattes et la disparition de la queue. Nous avons déposé sur le fond quelques énormes moules de rivière des anodontes. Chaque moule peut filtrer jusqu'à 40 litres d'eau par jour et permet ainsi à la lumière d'atteindre le fond du bassin. Mais il est inutile de les chercher du regard. La profondeur d'eau de 2 à 4 mètres selon les côtés dissimule totalement le fond de cette excavation. Les nénuphars cohabitent avec des prêles, mais surtout avec une autre plante, le potamo nageant, dont les épis et les feuilles oblongues flottantes oxygènent l'eau et protègent les poissons de la chaleur. Nous avons récupéré quelques pousses de cette vivace dans le bassin de la source où elle s'était installée. Il faut cependant maîtriser sa croissance car elle devient vite envahissante. En longeant le bassin, montez quelques marches sous les arbres au pied d'une butte vertigineuse. Vous découvrez alors le bois des haïkus. Le haïku est un poème court japonais en trois vers qui retranscrit la beauté fugace d'un instant de vie. Il exprime un sentiment éphémère mais fort et doit permettre de retrouver, longtemps après sa composition, le ressenti de l'instant vécu. Ici, les haïkus ont été inspirés par la faune, la flore, les sons, les lumières, les ambiances et les saisons. Pour vous permettre de les découvrir tranquillement, nous avons installé une banquette en bambou sur le tapis de lierre, sous une tonnelle de laquelle descendent des kakémonos de poèmes. En sortant de ce bois, repartez à votre gauche dans la prairie. Une planète de métal, la Terre et ses ondes, est entourée par 7 portes en tubes multicolores sur lesquelles grimpent des pois de senteur variés et très parfumés. ces plantes toutes simples, adorées par nos grands-mères, partent joyeusement à l'assaut de ces structures dominant le vallon. Le nombre de portes n'a pas été choisi par hasard. Le chiffre 7 est un chiffre magique, à la symbolique forte. Les 7 jours de la semaine, les 7 planètes du système solaire avec la Terre, les 7 péchés capitaux, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras et les 7 nains de Blanche-Neige. La visite continue. Slalomées entre les bacs en bambou et leurs éryngiums bleus et argent, aux feuilles épineuses et aux boules azurées, attention à ne pas vous piquer, les feuilles de ces amoureuses de soleil se défendent. Retrouvez le nord sur la boussole du belvédère, récupéré sur un vieux voilier et dernier souvenir d'une sortie en mer. Le nord n'est pas toujours très très juste. Vous pouvez observer ici un massif de larmes de Job que nous vous avions présenté au début de la visite avec leurs graines qui passent du blanc au bleu puis au gris. Frôler le soleil fabriqué avec un vieux présentoir à bouteille, toujours la seconde vie. Les rayons de l'astre sont les rayons de l'étagère de rangement. Croquez un kiwai avec sa peau, tout petit, tout vert, mais si rafraîchissant. Hélas, il n'y en aura pas pour tout le monde. Respirez le parfum de miel des onagres jaunes, infatigables et phosphorescentes, vagabondes aussi, et envahissantes quelquefois. Et enfin, enfin, visitez la tente d'exposition. Si vous avez aimé les objets, imaginez et créez pour cet espace mêlant art et nature. Découvrez les sculptures, les torches d'extérieur ou d'intérieur et autres réalisations fabriquées par le même artiste et dans le même esprit que leur grande sœur monumentale. Vous trouverez là une idée de cadeau pour un ami. L'objet le seul qui sera le point d'orgue pour la décoration de votre salon. La torche qui chassera avec panache et élégance, dans un parfum de citronnelle ou de géranium, les moustiques de votre terrasse. Au lieu de repartir directement par le pavillon d'accueil, et pour clore cette balade, un dernier détour. Longez le petit mur et prenez l'escalier en fer. Vous finirez ainsi votre visite par le bois de noisetier, envahi au printemps par les muscaries bleues. Par la fenêtre taillée dans les cornouillers sauvages, vous aurez une très belle vue sur le coteau des cèdres, les champs de blé au loin et sur la prairie. Vous pourrez aussi savourer un café au bistrot rose, petite halte confidentielle. La randonnée est enfin terminée, vous êtes de retour à l'accueil. Nous espérons vous avoir fait passer un beau moment et souhaitons vous revoir très bientôt pour de nouvelles découvertes. L'équipe à fleur d'eau.